L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 259e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Je suis de retour avec Pierre, j'étais en congé au mois de septembre et donc je suis de retour parmi vous avec plaisir. Donc après avoir laissé Pierre tout seul présenter avec brio les deux premières émissions de la saison, nous sommes désormais l'équipe au complet pour la suite donc de cette saison 2023-2024. On va commencer, comme de coutume, par des actualités internet et vie privée. Alors, un projet de loi dont on entend parler dans la presse généraliste, mais j'ai assez peu d'écho, en fait, dans la presse spécialisée, dans les blogs, c'est la loi SRENE, donc sécurité machin numérique. J'ai pas potassé la signification de l'acronyme. Donc, des nouvelles qui sont données donc, par la quadrature du net sur une des mesures les plus controversées, d'ailleurs qu'on a dénoncé lors d'une émission précédente, c'était l'obligation qui serait donc faite aux fournisseurs de aux éditeurs de logiciels, donc aux éditeurs de navigateurs web, donc Mozilla Firefox,
Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari,
voilà, et tout le tatouim, donc ils seraient obligés donc de filtrer les URL qui seraient soupçonnées donc les URL qui mèneraient à des sites liés à des arnaques, donc les usurpations d'identité, le phishing et compagnie. Donc la lutte contre le phishing en soi, c'est quand même une autre chose. Sauf que au lieu d'éduquer la population, d'expliquer, de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent comment ça marche et se débrouiller, ben non, c'est le gouvernement qui va vous dire ce que vous avez le droit de regarder ou non.
Non, ça va même au-delà de ça, la stupidité de l'histoire. C'est que c'est une tellement bonne idée que les gens n'ont pas attendu le gouvernement pour le faire. C'est-à-dire que ça existe déjà.
Oui, ça existe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Google et Microsoft qui mettent
à disposition des listes et c'est implémenté dans tous les navigateurs quasiment.
C'est un peu sur le principe au final des anti-pubs, hein, des ad-bloqueurs. C'est le même principe. Donc en soi, je vais y venir, Pierre. C'est pas tant le principe d'avoir une liste noire d'URL. Le problème, c'est que cette liste noire, a priori, ne serait pas connue. La liste, on peut reprocher des choses à Google et Microsoft, mais au moins la liste d'URL interdites que vous paramétrez, vous pouvez la consulter. Vous pouvez savoir quelles sont. Il n'y a pas trop de surprises, mais on pourrait voir s'il y a un abus. On peut aussi dire zut. Donc là, ce que voudrait imposer ce texte de loi, alors ils ne sont pas finalement allés jusqu'à un filtrage complet, un blocage complet, puisque ce qui est maintenant prévu, c'est qu'on puisse quand même passer outre. Un peu comme si vous accédez à un site en HTTPS dont le certificat est expiré, vous avez le droit quand même de pouvoir y aller. On vous dit oui, attention, ce site prétend être le site
LinuxFR.
Voilà, LinuxFR, être légitimement LinuxFR. Sauf que son certificat, il est signé par une autorité non valide où il est expiré depuis 6 mois. 2 heures, ça marche aussi. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? C'est dangereux. Et vous avez le droit d'aller au-delà. Là, vous pouvez quand même le faire. Donc, ils ont quand même un petit peu mis d'eau dans leur vin. Mais le fait est que cette fonctionnalité ne serait pas désactivable. C'est là, comme tu disais, Pierre, tu peux dire zut à cette fonctionnalité. Tu peux dire non, moi, je ne veux pas.
Je suis grand, je sais ce que c'est naviguer sur Internet.
Donc, après, le grand public ne soit pas forcément très éduqué à ce genre de choses et qu'il ait besoin d'une aide, je peux l'entendre, mais. Il faut pouvoir détecter des abus. Je me souviens qu'on avait traité d'une nouvelle là il y a quelques mois où des utilisateurs d'un channel Telegram s'étaient retrouvés en cliquant sur une URL tout à fait légale à voir la page de blocage anti-pédopornographie du ministère de l'Intérieur. Alors que ça n'avait strictement rien à voir comme contenu. Hein.
Tout à fait.
Il n'y avait rien d'illégal. Donc les abus existent. on reprend souvent cet exemple, mais on va le reciter, le Royaume-Uni, qui avait imposé donc, le filtrage des sites internet, pareil pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie, a fini par faire marche arrière parce que y avait trop d'effets de bord.
Pierre ? Les marches arrière du Royaume-Uni, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, on ne va pas remettre une pièce dans la machine. Mais voilà, ce projet de loi SRENS, on va bien s'amuser. Il n'est pas encore fini, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas de bilan de ce qu'ils ont fait passer. Puisque
Souvent, on a quand même des bilans
intermédiaires.
Souvent des comptes rendus, des discussions sur les amendements.
Mais malheureusement, il y a des journalistes qui ne sont
plus un député ou un ministre de la République en marche, enfin de Renaissance maintenant, comme il s'appelle, qui fièrement indiquait comment il pouvait naviguer. Sur un site pornographique d'un éditeur très célèbre. Regardez, j'ai donné ma carte d'identité à telle entité, t'as un tiers de confiance. Et bon, bref. Tout est dans la définition de tiers de confiance.
Exactement. Alors qu'il y aurait des solutions techniques.
Des solutions, la Belgique, qui avec sa carte d'identité qui possède donc une clé RSA, permet donc...
Ils pourraient l'implémenter. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'ils ont implémenté.
Ma nouvelle carte d'identité possède une puce, mais je ne pense pas que ce soit prévu.
C'est pas prévu en France actuellement sur les cartes d'identité électroniques, ce qui est dommage, puisque c'était le meilleur moyen finalement pour avoir un système qui fonctionne et qui garantisse... Techniquement, il y avait moyen de garantir l'anonymat et de tout faire que ça se passe sans passer par un tiers qui serait au courant que vous avez visité des endroits où on vous demande votre carte. C'était faisable, mais non. C'est plus facile de... En fait, c'est de la technologie par l'injonction. Il faut que ça fasse ça. Débrouillez-vous, l'injonction est là en tout cas.
On va rester en France et un adjoint au maire de Nice, donc le premier adjoint au maire de Nice, le maire de Nice étant Christian Estrosi, connu pour ses expérimentations sur la reconnaissance faciale, nous dit, donc, d'ailleurs dans le sillage de son mentor, que la CNIL est obsolète et ça les empêche de pouvoir procéder à la mise en place de la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Mais oui, c'est pour reconnaître le malfrat, regardez, il avait un pull rouge, ou alors pour reconnaître des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, il l'a vraiment dit.
Oui, oui. Et donc ils disent que voilà, la CNIL nous empêche, la CNIL nous bloque. Donc la CNIL c'est des vilains, c'est des lois qui sont complètement... Alors c'est des lois obsolètes. Citation exacte. Donc, alors, c'est pas la première fois, c'est Christian Estrosi.
Il y en a qui ont eu le droit à un signalement pour séparatisme, pour moins que ça.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça serait mérité. Parce que là, en fait, c'est parce que Nice souhaite avoir un système de vidéoprotection intelligent.
Donc, c'est des caméras. Pierre.
C'est le titre officiel. Pardon. Je suis désolé. Moi aussi, ça m'arrache la bouche à chaque fois de dire vidéoprotection. Mais c'est le nom de leur saloperie. Donc, un système de vidéoprotection intelligent, en bon français, une vidéosurveillance avec une analyse automatique. Voilà. Et donc, en particulier avec de la reconnaissance faciale. Et donc, là, la CNIL a des positions spécifiques sur le fait d'avoir des systèmes avec, outre la reconnaissance faciale, avec des solutions plus avancées ou des solutions où on pourrait mettre des photos pour retrouver la personne dans la ville ou des trucs comme ça. Et si je puis me permettre une transition, Alexandre,
nous avons la transition.
Un autre sujet rigolo que nous avons classé également en vie privée. Nous avons l'IGPN qui s'inquiète quand même que, il y a quand même un peu trop souvent des policiers qui utilisent les fichiers de la police.
Et ça, ces signalements ne sont pas nouveaux. Des policiers qui ont été condamnés pour avoir accédé aux fichiers de police pour savoir, pour avoir des informations sur telle ou telle personne, savoir si tel locataire est solvable ou sur quelqu'un, l'amant de leur femme, ou ce genre de choses. C'est pas nouveau. Ça a déjà été signalé.
Mais voilà, en 2022, l'IGPN a eu 74 saisines pour des violations du secret professionnel, 56 sur des détournements de fichiers. C'est 56 sur une année, c'est juste ce qui leur a été signalé.
Alors qu'on ne dise pas que les honnêtes citoyens n'ont pas de problème, puisque ce genre de fichier, vous pouvez être en tant qu'auteur d'infraction, également en tant que victime.
Exactement.
Attention.
Et alors, des fichiers, en plus, la police, à chaque fois, ils insistent pour créer des nouveaux fichiers. Alors, j'ai même plus la liste complète en tête. Il y en a tellement. Ça leur donne accès à beaucoup trop d'éléments. Et en fait, ils prétendent Enfin, après, il y a eu aussi des fuites. Alors ça, c'est plus rigolo. C'est des gens qui se font passer pour des agents de police d'autres communes ou ce genre de choses. Ça existe aussi.
Ah bah, l'usurpation d'identité, oui, ça, c'est quand même chose qui est pas rare, notamment pour les cambriolages.
Tout à fait. Mais du coup, quand on croise avec, ben voilà, Nice où ils veulent un système de vidéosurveillance, de vidéosurveillance augmentée, comme ils disent, enfin intelligent, eh ben, ça veut dire que ce genre d'attaque sera autrement plus dangereuse à Nice, puisque les gens auront accès à encore plus d'éléments sur la vie privée des gens. C'est beau, la modernité.
Mais du coup, il n'y a pas besoin de la CNIL s'il n'y a pas de... Ah.
Exactement, il n'y a pas besoin de la CNIL.
On était en France et je propose que l'on passions essentiellement aux États-Unis, hein, quand c'est étranger, souvent c'est les États-Unis, un petit peu le Royaume-Uni. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Lilac Frog, Reason to Stay. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Lilac Frog, Reason to Stay. Vous écoutez les Codignous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On reste sur l'Internet et la vie privée. Cette fois-ci, on part aux États-Unis. Les USA versus Google. Nadella explique comment Apple a utilisé le moteur de recherche Bing en monnaie d'échange contre Google.
Tout à fait. Bah alors.
Nadella qui est donc le PDG de Microsoft.
Voilà, tout à fait PDG de Microsoft. Donc Microsoft, développeur du moteur de recherche Bing, l'un des rares moteurs de recherche, on va dire, encore vivant à ce jour, alternatif à Google.
Qui est poussé par Edge, hein, au final.
Voilà, poussé par Edge et par Microsoft au sein de Windows. Et ils expliquent que, ben, en fait, aujourd'hui, ben, c'est impossible de faire un moteur de recherche si on n'arrive pas à être le moteur de recherche par défaut sur un nombre important de plateformes. Et que, ben, quel que soit le nombre d'étapes nécessaires pour changer le moteur de recherche par défaut, ce nombre sera, à partir du moment où il est supérieur à zéro, ce nombre est trop important. Et donc, il y a un avantage majeur à celui qui est en place. Et donc, ils expliquent
que... Microsoft connaît bien le concept.
Ils connaissent très, très bien le concept. Moi, ça me fait vraiment plaisir de les voir se défendre cette position-là de l'autre côté de la barre. J'avoue, c'est marrant. Ça détend de les voir. Ça change un peu, quoi. Eux aussi, ça doit leur faire bizarre aux avocats de Microsoft. Hein. Oh merde, qu'est-ce que... Attendez, c'est pas nous qui avons fait ça. Ah mince. Bref, toujours est-il qu'ils expliquent à quel point ils ont eu beaucoup de négociations avec Apple, mais en fait, a priori, les négociations avec Apple, c'était du vent, c'était uniquement Apple qui cherchait à négocier à la baisse l'état, enfin, qui cherchait à mieux à la hausse, le tarif imposé à Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut.
Oui, bon, ça, c'est de la négo. Enfin, là, pour le coup, il n'y a rien de... Mais procédé, je dirais, vieux comme le monde. Hein.
Oui, mais
vieux comme la négo.
Mais le problème, c'est que le fait de ne pas avoir de part de marché fait que le moteur de recherche est moins bon. Parce que ils ne peuvent pas s'entraîner sur les recherches qui sont réellement réalisées. Ils perdent tout un ensemble d'éléments. Et ça, c'est un vrai problème pour eux, pour avoir un meilleur moteur de recherche. Plus le fait, Google... Le nom Google est beaucoup plus important que la qualité derrière.
Oui, je ne vais pas aller faire des recherches sur le moteur de recherche de Microsoft pour améliorer le leur, quand même.
Non, moi non plus, je n'ai pas envie.
Faut pas rigoler non plus.
Après, moi, techniquement, j'utilise Bing indirectement, puisque j'utilise DuckDuckGo, qui utilise Bing derrière. Et alors, j'avoue, juste une petite parenthèse.
J'ai fait des choses bien pires, Pierre.
Ouais, je sais, ça. Petite parenthèse, j'aurais aimé être un peu plus âgé dans les années 90 et avoir un accès à Internet, un Internet tel qu'on l'a aujourd'hui dans les années 90, parce que ça aurait été fort intéressant à l'époque du procès contre Microsoft, justement.
Tu regrettes de payer 300 francs par mois plus les communications pour un truc qui rame ?
Ouais, c'est ça. Surtout qu'à l'époque, j'y avais pas accès. Puis on n'avait pas de site pour retrouver facilement les informations de ce qui se passait au procès. Mais du coup, là, au sein du procès de Google... Donc c'est procès pour abus de position dominante, etc. Il y a un document que Google ne voulait pas voir trop diffusé. Ça les embête un peu. C'est c'est pas nécessaire. Et du coup, le document en question, il est très simple. C'est des notes du vice-président pour les finances de Google qui expliquait que le business model de la recherche et de la publicité de Google est l'un des meilleurs business qui ait jamais été créé, avec un fonctionnement économique qui est équivalent à certains business illicites comme la vente de cigarettes ou de drogue. C'est à ce niveau-là, en fait, d'efficacité, parce qu'ils expliquent que les utilisateurs sont accros à la recherche Google, et donc il n'y a aucun problème de demande, il faut juste maintenant aller chercher les sous auprès des vendeurs de publicité, ou des acheteurs d'espace publicitaire plutôt, et qu'on fait ce qu'on veut. Je vous résume le document, parce que j'ai pas tout lu, et puis je vais pas vous le traduire là comme ça à la volée non plus, mais c'est...
C'est un constat lucide.
C'est un constat lucide. Et effectivement, à leur place, ça doit être très réjouissant, mais du coup, ça va clairement, effectivement, pas dans leur sens en termes de défense. C'est pas terrible. Niveau d'image, là, peut-être pas terrible.
Neutralité du net aux États-Unis, le retour de la vengeance de la contre-attaque.
C'est exactement. En fait, ça revient. Si vous vous souvenez des émissions d'il y a 5 ans, elle était partie. Après plusieurs... ça revient. Et finalement, la neutralité des lunettes aux États-Unis, ça va revenir.
Bon, je rappelle qu'il y a quand même des élections présidentielles dans un an, donc ça peut
repartir. Ouais, ça c'est le problème. Mais voilà, et du coup, c'est suite à la prise de contrôle de la FCC par les démocrates. Et effectivement, ils se rendent compte que, il n'y a pas eu plus d'investissement dans les réseaux, alors que les fournisseurs d'accès Internet avaient dit « Oui, avec la fin de la neutralité du net, on va pouvoir investir énormément. » Et finalement, non. Donc, du coup, le retour de la neutralité du net semble une évidence. Pour rappel,
Microsoft Copilot sera disponible en Europe.
Pour le moment.
À la rigueur, nous, on s'en fiche, mais la raison est quand même assez piquante.
La raison, elle est simple, hein, c'est que de toute façon, c'est pas conforme aux règles européennes, notamment le DMA. Ça alors ? On a des règles qui protègent un peu les données, un peu la vie privée en Europe maintenant, et du coup, il y a des trucs qui sont plus autorisés. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout.
Pierre, tu vas nous parler d'un adaptateur HDMI qui demande ton emplacement, qui veut tes données, tes photos et qui en plus te spam.
Exactement, je suis sidéré d'être tombé là-dessus. Alors, c'est des geeks hein, qui sont tombés là-dessus. C'est un adaptateur pour téléphone portable intelligent de la marque à la pomme qui permet d'avoir de l'HDMI sur votre téléphone. Alors, moi, je sais pas à quoi ça sert réellement, hein, de sortir de l'affichage du téléphone, je suppose pour certains affichages de vidéos ou autres. Et l'adaptateur, pour fonctionner, vous demande de créer un compte, d'installer une application, transfère tout un ensemble de données à des serveurs en Chine. J'avais pas tiqué sur le nom en plus. Ah oui, j'avais pas tiqué sur le nom de l'entreprise. Je suis déjà tombé sur elle, c'est une entreprise liée à l'État chinois en fait. Voilà, donc, en fait, l'adaptateur, pour fonctionner, demande à installer une application et à faire des tas de trucs qui n'ont rien à voir.
Déjà, un adaptateur HDMI qui te demande une application, déjà, tu te méfies.
Ah, faut se méfier, oui. Normalement, c'est... Non, c'est pas normal.
C'est traite des signaux physiques, quoi. Hein
Mais c'est... Non, c'est... C'est assez inquiétant. Pour être courtois. Franchement, n'utilisez pas cette... Enfin, un adaptateur qui vous demande une application en plus, déjà, il faut se méfier, mais qui en demande en plus l'accès aux données, ben voilà, c'est un bon exemple de... un petit peu d'abus en termes de vie privée. Tout petit peu.
On va parler logiciel libre, tiens, maintenant. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé logiciel libre à la radio. Cet été, le projet Haiku, auquel tu tiens beaucoup, Pierre, a fêté ses 22 ans et beaucoup de nouveautés. Alors, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des nouveautés qui vont parler, je dirais, à peu près au commun du mortel capable d'installer Haiku?
Honnêtement, c'est très facile d'installer Haiku. Non, sans déconner. C'est beaucoup plus facile qu'une distribution Linux.
À ce point?
Ah ouais, non, c'est...
C'est-à-dire qu'au niveau gestion de matériel, t'as des drivers... Ouais, d'accord.
Le matériel est compatible, mais honnêtement, ça pose pas tant de problèmes que ça sur la plupart des machines.
C'est facile à installer sur une machine virtuelle, déjà.
Ah oui, voilà. C'est une évidence.
Si vous voulez jouer avec.
Des grosses améliorations de performance, parce que, effectivement, maintenant qu'ils commencent à avoir plus de compatibilité avec du matériel et des différents logiciels, les gens essayent de mettre des logiciels plus complexes sur Haiku, et donc ça leur permet de découvrir des bugs, des problèmes de performance... qu'ils améliorent. Dans les trucs notables, c'est l'arrivée notamment de la compatibilité avec Wine qui permet de lancer éventuellement des applications Windows, y compris des jeux. Donc assez surprenamment, ils lancent certains moteurs 3D dans Wine et ça marche très bien sur Haiku, ce qui est assez bluffant du coup pour ceux qui suivent ce projet. Il y a aussi eu des corrections de bugs à droite à gauche, des améliorations, vraiment un peu de tout sur... Tout s'améliore au fur et à mesure. Et petit rappel, par contre, ce genre de projet ne peut survivre que parce qu'il y a des dons qui sont faits de temps en temps et eux n'ont pas de soutien par des entreprises ou des dons massifs soudains de 100 ou 200 000 euros comme certains projets libres ont pu avoir récemment. Donc, n'hésitez pas, si le projet vous intéresse, déjà achetez un œil. Rappel, Haiku, c'est un système d'exploitation. C'est l'un des rares aujourd'hui à être développé et à cibler un usage d'ordinateur de bureau. Vraiment, j'insiste, les systèmes Linux sont génériques. Les Windows, maintenant, c'est clairement générique aussi. Enfin, c'est visé. La partie Windows pour le bureau, maintenant, ça sert à vous vendre de la publicité. On en reparlera après. Mais là, Haiku, c'est l'un des rares systèmes à vraiment cibler l'usage de bureau et en libre en plus. Et vraiment, n'hésitez pas à acheter un œil, c'est toujours très intéressant à voir.
Ne serait-ce que par curiosité
intellectuelle, tout à fait.
Technique. On va parler d'un logiciel que vous connaissez un petit peu mieux, Firefox, qui sort dans la version 118, avec une fonctionnalité intéressante, c'est la traduction en local des sites internet. Actuellement, si vous voulez traduire un site web, il y a, alors je vais citer un Google Translate,
notamment.
Qui le fait, pas les seuls, on va dire que c'est les plus utilisés, mais ça nécessite de fournir le site à Google. Alors, en soi, on va dire, mais le site, il est déjà en ligne. Sauf que si vous activez les cookies, vous avez un compte Google qui est, je dirais, logué quand vous utilisez Firefox, qui est quand même pas rare, ça donne quand même des informations sur votre historique à Google ou au prestataire que vous allez utiliser. L'avantage, là, c'est que ça ne se passe qu'entre vous et le site internet que vous consultez.
Exactement. Et donc, à noter, la fonctionnalité a été financée par plusieurs, enfin a été développée avec plusieurs universités avec un financement de l'Union européenne.
Moi j'aurais une question, du coup ça alourdit pas parce que bon.
C'est une extension normalement, enfin c'est une extension. Ils ont le navigateur a un fonctionnement en extension, donc normalement cette partie-là, tant qu'on l'utilise pas, elle n'est pas chargée. Donc ça va alourdir en termes de place sur le disque dur éventuellement un petit peu. Je sais, j'avoue, j'ai pas creusé pour voir. La taille du système de traduction. Mais effectivement, pour une fois, on se retrouve avec un système comme ça qui est pensé pour une utilisation en ligne. Et c'est rare. C'est vraiment rare. Alors, peut-être que d'autres le feront à terme. C'est pas trop dans l'intérêt d'un Google, hein, clairement. Mais.
Oui, il se passe encore des choses cool, du côté quoi. De Firefox. Ah,
mais cette fonctionnalité-là, moi, je la trouve vraiment excellente. Et surtout, j'insiste, c'est contrairement à d'autres traductions. Ah oui, voilà, on peut aller dans les paramètres. Installer des langues en plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est pas trop lourd, c'est parce que ça n'a installé que l'anglais et la langue locale par défaut, par exemple.
Après, il n'y a pas forcément, je disais, que la partie, va dire, lexique, mais bon, pour avoir une traduction, on va dire, représentative et qui ne soit pas quelque chose de mot à mot, il faut quand même. Logiciellement, c'est pas quand même.
Ah non, c'est pas rien, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est un vrai chantier, c'est pas juste un dictionnaire, effectivement. Donc maintenant, ça, c'est. À voir, faudra l'essayer. Les premiers résultats, les premiers tests que j'en ai vus sont plutôt bons. Moi, après, pour ma part, j'utilise pas trop ces services-là, donc je verrai à l'occasion, mais c'est plutôt une bonne nouvelle.
Tu parlais de Windows et Windows 12. Pierre, qui pourrait être en abonnement?
Tout à fait, parce
après,
que...
Après t'abonner à Office, on veut t'abonner à Windows. Bon, ça reste dans la logique.
Tout à fait. Alors, c'est pas certain, on est sur de la rumeur, mais on trouve ça extrêmement drôle. Alors ça sera peut-être une version spécifique de Windows seulement qui serait en abonnement, comme ils ont fait des éditions starter ou autres. Mais voilà, c'est...
À te retrouver avec un PC briqué parce que tu n'as pas payé l'abonnement, ça serait drôle quand même.
Exactement, ou un PC qui te demande ta carte bancaire au démarrage pour dire « Ah, là vous n'avez pas payé ». Je trouve ça fantastique, Je sais pas où jusqu'où s'arrêteront-ils. Parce que là, ça commence à être vraiment fun. Ou alors, je n'arrive pas à voir les cas d'usage pour ça. C'est vrai que...
J'ai plus besoin de mon système d'exploitation. Plus envie.
Je comprends que, économiquement, pour l'entreprise Microsoft, ce soit extrêmement intéressant d'avoir un chiffre d'affaires récurrent plutôt que ponctuel. Après, quand on voit le nombre de PC vendus avec Windows...
À quel prix? C'est-à-dire que une licence... Enfin, je sais pas combien coûte une licence Windows. 100 euros, peut-être? Je sais pas. Je vois les euros.
Ah,
Pierre.
Mon ami. Ça dépend.
Licence... Après, pas grand monde n'achète de licence dans le commerce pour un PC individuel.
Mais alors, ouais. Voilà, c'est la blague. La licence Windows aujourd'hui, c'est la foire. C'est fou.
Après, pour une entreprise, à la rigueur, vous voyez, pourquoi pas pour une entreprise, tu vois,
voilà.
qui a un stock changeant de licences, tiens, je réduis la voilure de ma flotte de PC, j'arrête l'abonnement en licence. Après,
pour des entreprises, pourquoi pas, pour des particuliers, vraiment pas, et pour information, pour répondre à la question, Alexandre, une licence Windows version Home, donc pas les versions Pro qui peuvent aller beaucoup plus cher, les versions Home, on parle de 30 à 160 euros.
Même, c'est-à-dire
c'est grand écart.
Tu mets à quel prix? Parce que 10 euros par mois.
Ah bah non, c'est pas intéressant. 10 euros par mois,
c'est
fait beaucoup trop.
En gros, ce serait un petit abonnement.
Non, mais c'est incompréhensible cette idée. Pour l'instant, c'est une fuite. C'est une fuite, mais du coup, ça fait plaisir de voir ça. Et je rappelle quand même que c'est pas contradictoire avec le fait que Windows soit de plus en plus bourré de pubs. Parce qu'aujourd'hui, Windows, c'est quand même. Les dernières captures d'écran de Windows 11 que j'ai vues, honnêtement, ça fait peur en termes de volume de publicité qu'il y a dessus. Donc, j'avoue, payer et en plus avoir les pubs, déjà qu'aujourd'hui, c'est un logiciel qu'on achète et qui nous attaque avec des publicités en permanence, j'avoue, c'est un peu difficile à imaginer.
On termine les actualités logicielles et matérielles avec la sortie de la Raspberry Pi 5.
Voilà, alors je sais, c'est pas du matériel entièrement libre, mais c'est une plateforme avec laquelle beaucoup de gens découvrent Linux et la programmation embarquée, éventuellement ce genre de choses, donc toujours intéressant d'en parler. Donc la Pi 5, grosso modo, elle est beaucoup plus rapide que la Pi 4, qui elle-même était plus rapide que la précédente. Ils ont corrigé pas mal de problèmes, il y a des changements que moi j'attendais beaucoup, genre l'ajout d'un bouton on-off dessus, ça c'est bien. Il était temps. Mais plus sérieusement, voilà, c'est beaucoup plus envisageable maintenant. Alors surtout avec 2-3 extensions qui ont déjà été annoncées, qui vont bientôt sortir, c'est beaucoup plus envisageable d'utiliser ça comme remplacement pour un ordinateur maintenant. Parce qu'il va y avoir la possibilité de mettre des disques NVMe, donc des disques de stockage, comme ce qu'il y a dans un PC, plutôt qu'une carte SD qui va tomber en panne au bout de 3 semaines d'utilisation intensive. Ayant déjà vécu la chose, je vous déconseille, c'est très déplaisant. Après, techniquement, il y a aussi beaucoup d'autres changements, il y a 2-3 vieilles choses qui ont été supprimées. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que le port jack, donc le port audio jack, a été supprimé.
C'est une espèce en voie de disparition.
Arrête.
À part dans le monde professionnel, le 5,5 passe encore, mais alors le 3,5...
Arrête.
Moi, j'en vois encore ici, là, dans le studio, nous avons encore des mini.
Oui, oui, et ben moi, j'en ai partout chez moi, alors, hein. Wait. C'est bon. Il faut que ça survive, le jack. C'est un format qui marche. Il faut arrêter de vouloir casser les trucs qui marchent. Donc non, les Raspberry Pi 5, et puis on pourrait espérer qu'elles soient un petit peu disponibles à la vente, parce que les Pi 4, là, c'est devenu extrêmement rare. Mais voilà, si vous souhaitez fabriquer un ordinateur pour pas trop cher, ça peut peut-être valoir le coup à essayer, parce que franchement, là, ce qu'ils annoncent en termes de performance, c'est vraiment pas mal. Il y a à peu près tout ce qu'il faut, et surtout, ils ont enfin réglé le problème du stockage de données.
Nous allons continuer avec les actualités sur la sécurité, mais avant, nous allons écouter un morceau de musique. Nous allons donc vous passer Roman Koch, Crystal in Your Eyes. Vous écoutez Décodez-nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
Took
Roman Koch, Crystalline Your Eyes, vous écoutez le Codec Gnou sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va aborder les questions de sécurité. On va commencer par parler de vol de voiture. Bon, c'est pas courant dans l'émission. Mais a priori, ce que me dit Pierre, hein, de ce qu'il a glané sur ses flux RSS, c'est la faute à TikTok et à Instagram.
Exactement, je trouve magnifique cet axe, cette ligne de défense de la part donc, de deux constructeurs. Il s'agit de Kia et Hyundai. Ils ont un problème, c'est qu'ils ont énormément de leurs voitures qui se font voler apparemment aux États-Unis, mais peut-être pas, peut-être en Europe aussi, j'avoue, j'ai pas, mes sources là sont américaines. Et donc, ils ont un problème, c'est que apparemment, c'est très facile de voler les voitures en question. Mais plutôt que de dire...
Il y a une faille de sécurité, peut-être, dans notre électronique.
Ou genre, on n'a pas mis un équipement que tout le monde met, mais que nous, on n'a pas mis. Voilà. Apparemment, c'est ça, le problème. C'est, il manque une protection anti-vol que toutes les voitures ont, sauf les leurs. Ça s'appelle de l'économie. Mais plutôt que de dire... Ok, on a fait une connerie. Ils disent, ah non, c'est la faute aux réseaux sociaux, parce que du coup, sur TikTok et Instagram, les gens ils partagent trop facilement les vidéos pour dire comment voler les voitures. Chapeau.
Ça s'appelle assumer. C'est un joli contre-feu.
C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, c'est... Et donc, on se retrouve avec des titres. Les réseaux sociaux responsables d'une augmentation sans précédent des vols de voitures. Wow.
De deux marques.
De deux marques. Étrangement. Voilà, étrangement. C'est... J'avoue que je...
Encore dans la famille...
voilà, c'est pas moi, c'est les autres.
C'est pas moi, c'est les autres, c'est pas de ma faute. Apple blâme donc des applications pour des surchauffes d'iPhone 15 Pro.
Exactement. Alors, depuis, ils ont précisé... Enfin, en même temps, ils précisaient que... Ok, il y a un bug chez nous, mais... Alors, écoutez, il y a un bug chez nous qui fait que les derniers iPhone 15, là, les 15 Pro, là, ils chauffent, ils surchauffent. Mais c'est aussi des applications qui seront responsables. Hein. Juste, on va faire une parenthèse 30 secondes. Apple conçoit, fabrique non seulement le système d'exploitation, les API exposées aux applications, le téléphone complet, la puce du téléphone. Tout, de A à Z.
C'est un des principaux arguments de vente d'Apple, et un des principaux arguments des Apple addicts, hein, des fans d'Apple, c'est que voilà, ils ont la maîtrise complète du matériel et du logiciel. Ce que ce soit d'ailleurs pour les iPhones, c'est également un argument qui est mis en avant pour les ordinateurs.
Tout à fait.
Parce qu'autant les téléphones, bon, maintenant, c'est souvent une seule entreprise qui le fait. Enfin, c'est quand même au moins la partie matérielle. C'est vrai que longtemps, avec les ordinateurs, c'était des pièces qui provenaient de différents fabricants. Et cette particularité de la maîtrise complète d'Apple était quand même quelque chose qui était mis en avant.
Tout à fait. Après, on va rajouter un élément en plus qu'à Apple par rapport à, tu parlais des PC, mais aussi à beaucoup d'autres plateformes, enfin, en dehors d'Android. Apple contrôle toutes les applications qui tournent sur les iPhones. Il y a un processus de relecture, de validation, etc. Comment ils peuvent encore, avec ce cadre, blâmer pour quoi que ce soit les développeurs d'applications tierces? C'est du foutage de gueule. On a un système qu'on maîtrise complètement, mais c'est pas nous, c'est les autres encore une fois. Je trouve ça magnifique. Alors depuis, ils ont fait les mises à jour d'iOS pour corriger le problème, mais voilà, c'est... La chasse gardée, c'est bien, mais écoutez, hein, voilà, c'est pas très... C'est bon. Quand on peut blâmer les autres, on le fait.
Merci Pierre. Des écoles américaines qui se retrouvent avec des appareils Android infectés par des malwares.
Tout à fait. Plus de 70 000 téléphones Android ou des box pour contrôler des systèmes de caméras de vidéosurveillance ou des tablettes ou autres avec le malware Triada. Donc a priori, ça aurait été injecté dans les appareils avant même qu'ils n'arrivent chez les revendeurs. Donc ça ciblait pas spécifiquement les réseaux les écoles américaines. Mais ils sont ouilles. Ça s'appelle absence de maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est pas forcément. Est-ce que c'est le fabricant du matériel lui-même qui a été infecté? Est-ce que c'est sur la route quelque part ça a été infecté? Est-ce que c'était volontairement à la base? On ne sait pas, il va falloir trouver. Le malware en question existe depuis 2016. Et il est conçu pour vraiment être bien planqué. C'est pas C'est pas le truc le plus visible. Et derrière, ça permet à toutes les machines d'aller répondre à un système de botnet, un système de command and control.
Voilà. Parlons de failles cachées, donc WebP, qui a une bonne méthode pour ne pas communiquer les failles de sécurité.
Ah oui, non, celle-là, elle était vraiment forte en plus. Donc, WebP, alors, on va reprendre l'histoire. Il y a 2 semaines, Google a publié un bulletin de sécurité pour dire il y a eu une faille de sécurité critique dans WebP. Donc, il y a 2 semaines, ça nous remonte à la mi-septembre, autour du 18 septembre, je crois. Et encore, peut-être plutôt autour du 20 septembre. Ils ont dit faille critique dans WebP. Le problème, c'est que la faille de sécurité en question, ils l'avaient déjà annoncée le 11 septembre. Le 11 septembre, Google a dit il y a une faille critique dans Chrome. Critique niveau 8,8 sur 10. Et en plus, déjà exploitée dans la nature. Mais faille que sur Chrome. Des développeurs de Mozilla, des développeurs de Qt, de plein de logiciels ne vont pas s'en inquiéter. Voilà, ça ne nous concerne pas.
C'est pas le même moteur de rendu. Voilà,
voilà, ça n'a rien en commun. Plus tard, nouveau rapport de bug avec plus de détails. Et là, Google précise. En fait, ça concerne WebP et le bug, il est à tel endroit, etc. Et donc, il suffit juste de lire, d'afficher, de décoder une image avec le qui exploite la faille pour que ça puisse aboutir à de l'exécution de code arbitraire à distance. On est donc sur une faille ultra critique. La note a été remontée, non pas, elle était à 8,8 à la base, ils l'ont montée à 10. Pendant les 2 semaines, il y a eu quand même des gens qui se sont rendus compte que le problème concernait WebP. Il y a eu des gens qui ont commencé à le faire, mais il a fallu quand même 2 semaines pour que tout le monde puisse se rendre compte que le problème était là. Petite blague, Apple a été mis au courant aussi, avant même, parce que les équipes d'Apple font partie de celles qui ont découvert la faille de sécurité. WebP étant développé par Google, ils l'ont signalé à Google, évidemment. Mais donc, Apple a pu corriger la faille et indiquer le correctif dès le 8 septembre. Donc, clairement, Apple et Google ont joué pour eux. Ils sont amusés, voilà, ils ont fait leur correctif. Ils ont communiqué que dalle avec toutes les communautés d'experts en sécurité informatique. Et tous les autres utilisateurs de leur logiciel, tant pis pour vous, c'est pas grave. Donc j'avoue que quand je vois ce genre de comportement de ces entreprises-là, je me dis que le Cyber Resilience Act européen, il y a peut-être moyen aussi de faire changer les méthodes de certaines grosses entreprises. Ça pourrait peut-être aider.
On termine la sécurité avec donc Mozilla. On avait parlé donc d'introduction locale, mais qui déploie une nouvelle fonctionnalité, l'Encrypted Client Hello.
C'est très simple.
À quoi ça sert? C'est que quand vous naviguez en HTTPS, le site que vous consultez chiffré, l'échange est chiffré. Sauf une chose, l'adresse n'est pas chiffrée.
Alors, l'adresse n'est pas chiffrée, oui et non. Pour être plus précis, lorsqu'on visite un site web, il y a 2 cas. Soit le serveur n'héberge que ce site-là, soit le serveur héberge plein de sites. Et quand il héberge plein de sites, il faut bien lui dire « Bonjour, je viens pour le site linuxfr.org » et non pas pour le site windowsfr.com, je ne sais pas. Et donc, c'est cet échange initial-là qui, effectivement, aujourd'hui, n'est pas chiffré. Et donc, la nouvelle fonctionnalité, c'est que, cet échange-là, il est chiffré. Ça fait des années que Mozilla travaille là-dessus. Ça fait depuis 5 ans, je crois, qu'il travaille là-dessus. C'est un gros sujet. Techniquement, c'est très compliqué parce que l'idée, c'est de réussir à chiffrer avant même d'avoir pu commencer à discuter avec avec l'entité en face. Donc, la solution est techniquement, elle fonctionne bien. C'est relativement complexe à expliquer. Je vais pas vous le détailler, mais voilà, Mozilla a réussi à pousser cette fonctionnalité-là. C'est en train d'être mis en avant auprès des organismes de normalisation comme l'IETF, donc Internet Engineering Task Force, et même des navigateurs comme Chrome vont commencer à l'intégrer. Donc c'est une bonne nouvelle et merci Mozilla pour ça.
On termine les actualités avec une annonce assez triste. Triste. Oui. Richard Stallman, qui a annoncé lors de la dernière conférence GNU 40 être atteint d'un cancer. Donc Richard Stallman qui a lancé le projet GNU.
Il y a 40 ans.
Le nom de l'émission, l'écho des GNU. On était à la braderie à présenter l'émission lorsque Radio Campus était présent. Porte de Paris, dans le village associatif. Donc, Richard Stallman, qui le logiciel libre doit beaucoup. Alors, Des fois, il peut y avoir des désaccords, des attitudes. Bon. Alors, il est... C'est Saint-Ignatius, mais pas forcément. Enfin, en tout cas, les libertés numériques lui doivent quand même beaucoup. C'est lui qui a fait. C'est lui qui parle lorsque vous entendez le générique de l'émission. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. On enchaîne avec la dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Egor Bedenai, Want You Badly. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus Antilles, l'art du numérique terrestre et campuslille.com. I get dramatic. It really lets me down. I just cannot do what just could have been done. I want you, and I even barely walk. Let's talk about it. It's an emergency. Just need a cure. Give me what I ache for. I'm defined and pure. I need it most and even more. Forgive for acting madly, but it's just because I want you badly. I just need a rush. Hot blood that froze cold away. No to get back, and let me be that brave to say, forgive for acting madly, but it's just because I want you badly. I'm inside an illusion. Ooh. It makes me feel alright. Hey. When I seem to have things that I'll never find, baby, I want you, and I even hardly think, 'cause of you I'm sick, it's the SOS. I just need a cure. Give me what I ache for. I'm defined and pure. I need it most and even more. Forgive for acting madly, but it's just because I want you badly. I just need a rush. A blood that froze cold away. No reasons to get touch, and let me be that brave to say, forgive for acting madly, but it's just because I want you badly. Want you badly. I need it more than even more.
But it's all because I want you badly.
C'était Egor Bedenai, Want You Badly. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Le sujet d'aujourd'hui, après une longue délibération de Pierre avec lui-même, pourquoi un processeur, il peut être plus rapide alors que sa fréquence elle est moindre? Pourquoi il y a moins de gigahertz, il y a moins de mégahertz, et ça va plus vite quand même? Pierre va vous expliquer.
Voilà, alors juste pour l'anecdote, le sujet m'est venu à l'esprit parce que je suis tombé sur une actualité récemment qui parlait du projet abandonné du Pentium 5 qui n'a jamais vu le jour et où, grosso modo, les ingénieurs d'Intel se disaient bon, des machines pour les particuliers avec du refroidissement liquide, ouais, il n'y aura pas de problème, les gens vont accepter ça sans souci et comme ça, on va faire des processeurs qui vont monter à 7 GHz ou plus. Alors Alexandre, à ton avis, est-ce que toi, parce que toi aussi tu l'as constaté, je pense, dans les années 90, on nous vendait des Pentium 4 à 3, 4, 5 GHz.
Et Apple qui était toujours en train de devoir justifier que le PowerPC, donc le processeur d'IBM, qui était donc qui équipait les Mac, était aussi puissant qu'un processeur Intel à puissance équivalente. Hein. Était toujours... Oui, alors mon PowerPC à 233 MHz, il est aussi rapide qu'un Pentium 2 à 400 MHz, si.
Voilà.
C'était toujours le...
C'est ce qui était vrai en plus, je pense. Alors, je faudrait creuser les détails, etc. Le problème, c'est que c'est difficile à démontrer sur des machines aussi différentes.
Si vous savez dire spontanément Pentium 2 400 MHz, c'est que vous êtes vieux.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un signe d'âge. Et donc, effectivement, dans la course à la puissance en informatique, il y a eu un changement à un moment. Alors, on va dire, oui, mais regardez, maintenant, les processeurs, c'est des processeurs à plusieurs cœurs. Il y a plusieurs processeurs sur la même puce. Effectivement, c'est une chose. Mais si on regarde une seule des puces, elle reste plus rapide que ce que n'était un Pentium 4 à puissance, enfin, qui avait sa fréquence qui était bien supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et quand on parle de fréquence, on parle de fréquence de quoi?
Exactement. On parle, la fréquence, c'est effectivement la vitesse à laquelle les calculs sont faits. Mais c'est le cycle d'horloge. C'est-à-dire que s'il a une fréquence, je vais faire une fréquence de 1 Hz, c'est tac, 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 tac. À chaque fois.
C'est rapide ton Hz, Pierre.
Ouais, bon, ça va, hein, écoute. Je suis fatigué.
C'est sur du 2 Hz. Là.
Ouais, voilà, du 2 Hz. Et bien, à chaque tic, et ben, il a fait une opération. Maintenant, qu'est-ce que c'est une opération? Là, par contre, ça devient plus intéressant. Mettons, le processeur lui demande de faire l'opération 1 plus 1. Eh ben, ça va être outil qui va dire « Ok, j'ai calculé, ça fait 2. » Mais sauf qu'il va faire quoi de ce 2? Il faut le stocker quelque part. Et donc, ben, il va y avoir un tic pour dire ben, « Je le mets quelque part. » Mais si on lui demande « Ajoute-moi X, Y et stocke ça dans Z eh », ben, il va y avoir un tic pour récupérer X, un tic pour récupérer Y, un tic pour faire l'addition, un tic pour faire le stockage en Z. Je simplifie évidemment. En fait, on revient à dire que 5 GHz, s'il faut 10 tics pour faire une instruction, votre processeur, il va être aussi rapide qu'un processeur à 1 GHz qui a besoin de 2 tics pour faire une instruction. C'est en fait, les processeurs aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis très longtemps, hein, c'est beaucoup plus compliqué que juste je fais une chose, j'ai fini, ok, je passe à la suivante. Parce que sinon, votre processeur, il y a plein de trucs, plein de composants dedans qui feront rien les trois quarts du temps. On appelle ça le pipeline. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, il y a des articles Wikipédia pour ceux que ça intéresse le plus. Et donc, on a des tas de problématiques qui sont apparues avec ça. Il y a aussi des vitesses d'accès à la mémoire, etc. Et donc, en fait, des processeurs, c'est tout un travail de logiciel, maintenant. C'est de l'algorithmie logicielle pour dire « Mon petit doigt me dit que je vais bientôt avoir besoin de cette donnée, je vais aller la chercher pour que au prochain tic, je puisse déjà exécuter l'instruction. Mon petit doigt me dit que ce if-là, je vais pas le prendre, je vais directement exécuter la suite et je pense que j'aurai bon dans ma prédiction. » Tout ça, c'est des mécanismes qui sont grandement améliorés dans les processeurs ces dernières années. C'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des processeurs ARM, notamment, qui ont une fréquence tout à fait honorable, peuvent être encore en deçà de processeurs de bureau qui ont des fréquences, donc AMD ou Intel, parce que juste ces composants-là, la prédiction de branche, ce genre de choses, clairement, c'est quelque chose qui est très compliqué, et AMD et Intel ont des années d'avance sur ça, juste parce que ils ne font que ça. C'est le gros du travail des processeurs, c'est améliorer toutes ces parties-là. Et donc, ben effectivement, aujourd'hui, savoir quel processeur est plus rapide, juste regarder la fréquence, ça ne sert plus à rien. c'est terminé, ça fait longtemps. On peut regarder aujourd'hui le nombre de cœurs, donc le nombre d'opérations faites en vraiment
parallèle. Est-ce que je peux dire que regarder la fréquence pour reconnaître la vitesse d'un processeur, ça fait flop?
Exactement, le jeu de mots est joli, on l'accepte. Et c'est une bonne fin pour cette déglication. Merci Alexandre.
Je t'en prie Pierre, c'est pas tous les jours que c'est moi qui ai le mot de la fin sur une déglicalisation. On passe à l'agenda, donc assez rempli, on est assez content. On va commencer, donc on va faire dans l'ordre chronologique, le mercredi 11 octobre de 19h30 à 23h30 à la médiathèque Cultivar de Capelle-en-Pévèle aura lieu donc un mercredi Linux, donc rencontrer des gens qui aiment le logiciel libre, utiliser le logiciel libre, aider si vous avez des problèmes d'installation, d'utilisation des logiciels libres. Donc je répète, donc c'est à Capelle-en-Pévèle, à la médiathèque Cultivar. Donc vous pouvez retrouver toutes ces actualités dans l'agenda du libre. Install party à Lille le samedi 21 octobre, donc dans le cadre des repères café, ça aura lieu au gymnase Place Sébastopol à Lille. Donc J'allais dire que c'était... Je dis n'importe quoi. Atelier d'autodéfense numérique le samedi 21 octobre sera lieu donc... je suppose que c'est un café, l'Offensive, à Lille, 41 rue de Valmy. Donc ça, c'est sur le site de Clis 21, ça n'est pas sur l'agenda du livre. Et on va terminer donc par une vieille tradition, la permanence associative autour du logiciel libre, la fameuse permanence du dernier mardi, pour ceux qui ont bien connu l'association Ch'tilux, toujours au Café Citoyen, place du Vieux Marché, aux Chevaux à Lille, métro République, Beaux-Arts. Toi aussi, rencontre des libristes de toute ta région et viens aussi les rencontrer si tu as des questions. Sur le libre, si tu veux tout simplement échanger, savoir ce que le logiciel libre, ses valeurs et à quoi ça peut te servir.
Ça fait pas plus de 15 ans qu'il y a ces permanences, du coup.
Oula, mon dieu!
Ouais, je pense qu'on a dépassé les 15 ans.
Ce serait bien à 15 ans. Hein.
Ouais, ça a dépassé les 15 ans.
15 ans. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. C'est avec plaisir que je vous ai retrouvé. J'espère que le plaisir et partager. Le podcast arrivera bientôt et on peut se quitter avec les premières mesures, les premières notes de New Leaves à la mode. Au revoir à tous, bonne fin de week-end et tout de suite vous avez rendez-vous avec Chupapimento et la semaine prochaine ce sera du jazz comme toutes les semaines à faire. On se retrouve donc dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 22 octobre à 19h comme d'habitude jusqu'à 20h.
Au revoir. Bye bye.